Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
Bonjour à tous. J'aimerais vous entretenir d'un sujet dont les uns et les autres, nous ne sommes certainement pas étrangers par l'expérience que nous en avons déjà faite. Et ce sujet, eh bien, s'adresse à tous, naturellement, mais peut-être s'adresse à quelqu'un en particulier ou à quelques-uns en particulier. Et nous avons tous fait l'expérience des insomnies. Alors, vous allez dire, où Alain s'embarque encore une fois. Alors ça vous fait sourire parce que vous avez gardé certainement des bons souvenirs de vos insomnies. Enfin, je ne vois quelques-uns qui sourient. Voilà. Mais vous savez, nous sommes tous passés par l'expérience à un moment ou un autre dans nos troubles, dans nos détresses, dans nos déchirements, nos chagrins, nos malheurs. Et c'est vrai que le titre que j'ai donné à ce message, eh bien, nous vient de l'expérience d'un homme très connu dans la Bible, c'est David. Et je me souviens d'avoir eu cette pensée, pour vous l'apporter aujourd'hui, « Nuit sans sommeil et jour sans soleil ». Alors, ça dit beaucoup de choses, tout ça. Nous avons tous vécu des moments où nous ne pouvions pas dormir. Alors, ne pas dormir est une chose. Mais dormir dans l'agitation, c'est une autre chose. Parce que je pourrais vous dire que la nuit, c'est noir, c'est ténébreux, c'est obscur. Nous n'avons pas les mêmes réactions que le jour. Et nous sommes dans un tunnel à ce moment-là. Et pour ma part, je voudrais simplement vous communiquer une anecdote. Il y a une vingtaine d'années, j'ai fait un adénome carcinome à la gorge. Alors après, il y a eu toute une suite. Ça dure depuis. Mais toujours est-il que je me souviens, nous venions de nous installer à Saint-Nazaire, à Pontchâteau. Et j'étais mais vraiment malade. Il y a des expériences, des expressions qui nous disent quand on est vraiment malade. On ne tient pas debout. Je ne mangeais plus depuis des semaines et des semaines. Et il a fallu quitter finalement l'église où nous étions auparavant depuis une trentaine d'années. Et nous sommes venus donc à Saint-Nazaire et à Redon. Et je me souviens que j'ai passé certainement la nuit la plus terrible de ce que je n'ai jamais connu. Dans la dépression, dans l'angoisse, dans l'anxiété. Ça ne se voit pas comme ça. Mais ça m'est arrivé depuis. Mais là, cette nuit-là, c'était terrible. Je me souviens que il y avait un train qui passait, parce que c'est sur la ligne de Quimper, Nantes, et je ne pouvais pas dormir. Et nous étions donc dans l'aménagement de notre appartement à Pontchâteau, et j'avais une frayeur du début jusqu'à la fin de la nuit. Et je me souviens de... Je voulais mourir à ce moment-là. C'est terrible. Alors, il y avait naturellement un arrière-plan ténébreux aussi, c'est que le diable ne voulait pas que je vienne à Saint-Nazaire et que je m'occupe de l'église. Ça, c'est l'arrière-plan, mais je passe là-dessus. Et j'avais envie de mourir. Je ne pouvais pas m'approcher de la baie vitrée parce que j'avais peur de me jeter dans le vide. C'était un immeuble quand même assez haut. Et on n'est pas tout seul dans ces moments-là. C'était affreux, vraiment. Et je vous en parle ce matin parce que vous dire que le pasteur, il lui est arrivé d'avoir de la dépression, j'en ai pas honte. Mais il y a un combat spirituel dans notre vie. Il y a des choses qui se passent et quand je me suis réveillé le matin, je peux vous dire que la journée n'était pas forcément très favorable. Parce que quand on ne dort pas, ça impacte la journée qui suit. Et ce que je n'ai pas su tout de suite sur le moment, en termes de consolation, je priais, je criais à Dieu. c'est que à Angers, il y avait une chrétienne qui connaissait pas ma situation, enfin qui m'a vu partir malade, mais qui ne savait pas ce que je vivais cette nuit-là, et qui m'a envoyé une longue lettre, et qui avait eu la révélation de cette nuit ténébreuse dans laquelle j'étais entré, le tunnel noir. Et véritablement, je l'ai reçu un ou deux jours après. Le courrier marchait encore normalement à l'époque. Et une chose qui est certaine, c'est qu'elle me décrivait ce que j'avais vécu cette nuit-là. Et elle m'a fait un bien extraordinaire. Il y a des paroles de connaissance dans la vie des enfants de Dieu. Alors après, ça a été mieux qu'à un quart. Mais je me souviendrai de cette nuit. Myriam s'en souvient, c'était affreux. Alors, nuit sans sommeil, journée sans soleil. C'est important. Je voudrais introduire notre méditation ce matin, parce que je l'ai vraiment à cœur. C'est pas de la théologie, c'est pas de la théorie, c'est de l'expérience que nous pouvons tous faire les uns et les autres. Et s'il y a des frères et des sœurs qui sont tourmentés, tourmentés de jour et tourmentés de nuit, écoutez bien. Il y aura une version particulière, parce que c'est l'histoire de David, nous en reparlerons. Moi, je vous invite à lire tout de suite le texte dans le psaume chapitre 32, combien de fois nous avons prêché sur cette parole pour les tourmenter, pour les angoisser, pour ceux qui sont là dans la dépression. Alors, psaume 32, verset 1er, de David, cantique. Et ça commence bien et ça finit bien. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité, dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée, je pleurais, je gémissais, je criais tout le jour. Parce que nuit sans sommeil et jour sans soleil. Car la nuit et le jour, ta parole s'appesantissait sur moi, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était que sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as effacé la peine de mon péché. Alors ça, c'est la version où nous pouvons faire de la dépression, où nous pouvons connaître les affres, eh bien, des tourments nocturnes et diurnes, alors que finalement, eh bien, il n'y a rien dans notre vie qui finalement, eh bien, peut véritablement nous amener à penser que nous avons péché et que nous sommes punis. On est d'accord. Parce qu'il y a des situations où nous vivons notre foi, où nous espérons être le mieux possible dans notre vie morale, et c'est pas pour ça que nous ne connaissons pas ces choses. Là, la question que nous allons aborder, parce que je pense qu'elle est bien formée de cette manière, c'est quand David va pécher gravement, et que là, il va perdre le sommeil, et il va pourrir ses journées. Mais je ne pense pas que ça vous concerne. Maintenant, si ça concerne quelqu'un, je apporterai une solution. Alors, je voudrais vous dire en introduction que les erreurs ne se regrettent pas, elles s'assument. On peut tous faire des fautes et des erreurs, mais il faut les assumer. Avec le traitement que Dieu, je parle de David, hein, que Dieu va nous administrer. Je dis ensuite que la peur ne se fuit pas, elle se surmonte. D'accord ? Je le répète, la peur ne se fuit pas, elle se surmonte avec la grâce de Dieu. Que l'amour ne se crie pas, il se prouve. Ce n'est pas la peine de dire à qui veut l'entendre, « Je t'aime, je t'aime, je t'aime » et n'en rien en faire. Ça ne sert à rien. La foi en Dieu est une puissance de libération et elle nous a franchis de toute crainte, de toute peur, de toute peur. Elle nous guérit de nos chagrins et de nos peines, et on peut multiplier ça à l'infini. Je dis bien la foi en Dieu. Elle est là. Premier élément et essentiel, finalement, de la guérison. Alors, on va faire un petit peu on va parler un peu de David maintenant. David avait été un homme excellent. C'était l'ami de Dieu. Un homme qui servait Dieu de tout son cœur, au risque de sa vie d'ailleurs. Alors, dans le contexte du psaume 32, David traverse une période de grande confusion morale. Il avait toujours eu une vie exemplaire en quelque sorte. Mais là, il va traverser finalement, eh bien, comme il le dira lui-même dans le psaume 23, la vallée de l'ombre de la mort. Et il sait de quoi il parle. Mais pour une raison, c'est que David va devenir otage de son lourd passé. Pas le passé en bien, mais le passé d'une erreur particulière. Et on va le rappeler simplement pour mémoire. David avait gardé secrètement et il avait maintenu au fond de son cœur les tourments de sa faute, une effroyable solitude. Il s'était écarté quelque part, et la solitude des tourments. Il n'en parlait pas. Il était devenu, nous pourrions dire, taiseux, parce qu'il savait ce qui se passait à l'intérieur de lui-même. C'est pas parce qu'il avait été un homme extraordinaire, qu'il aimait Dieu, qu'il servait Dieu, etc., mais il avait laissé une tache énorme dans sa vie. Alors, il va déprimer gravement. Je ne voudrais pas dire que la dépression, les tourments nocturnes ou les tourments diurnes, enfin le jour et la nuit, parce qu'il en parle dans cette... Moi j'ai repris que les mots, tout simplement. Eh bien, ça ne veut pas dire uniquement parce que nous péchons. Nous sommes des pécheurs pardonnés. Mais il arrive que nous pouvons marcher à côté, finalement, du chemin. Et c'était pas n'importe quoi. Il déprime parce qu'il a commis certainement à ses yeux... Mais aux yeux de tous ceux, parce que nous en parlons depuis 2500 ans, c'est écrit dans la Bible. La faute de sa vie, il avait convoité une femme, naturellement, qui était l'épouse d'un autre homme, adultère. Il avait gardé son mensonge en secret à l'intérieur de lui-même, pendant à peu près, selon les commentateurs bibliques, pendant à peu près un an et quelques mois. Et il n'était plus le David qui avait été connu avant. Il va le redevenir, le grand David, en passant par le traitement de Dieu. Donc, l'adultère, le mensonge, et il va faire assassiner. On se demande, mais qu'est-ce qui lui passe par la tête? Lui qui était un homme de grande valeur de la vie. Et il va naturellement commettre le meurtre du mari de Bathsheba, mais alors d'une manière tellement ignominieuse et honteuse, il va le pousser. Eh bien là, au combat, parce qu'il y a guerre à ce moment-là avec je ne sais quelle tribu, des païens autour d'Israël, et il va le faire, il va le mettre à mort, et il va passer de l'adultère, du mensonge, de la dissimulation, nous pourrions dire, au meurtre. Et voilà que David se trouve dans cette situation. Vous avez remarqué avec moi, on va le relire, « Tant que je me suis tu, donc le silence, je gémissais, la nuit, j'étais tourmenté parce que ta main s'appesantissait sur moi, dit-il. Ma vigueur n'était plus que finalement, un feu qui avait tout brûlé en quelque sorte. Et nous nous apercevons qu'à ce moment-là, il écrit cette confession dans ce rapport de ce psaume 32, après qu'il ait été délivré de Dieu, délivré par Dieu. Et il dira, heureux l'homme à qui la transgression est pardonnée et que le péché, tout simplement, a été effacé. Heureux l'homme à qui on n'impute pas, finalement, ses fautes. Il avait fait cette expérience. Donc, il peut en parler. Il sait ce que c'est qu'une délivrance. Il sait que, Dieu, comment fait Dieu pour, relever un homme ou une femme qui a été tourmenté, qui s'est tourmenté lui-même par sa faute. Mais je répète encore une fois, peut-être vous vivez des insomnies, vous êtes troublé dans votre vie, mais ce n'est pas pour ça que vous avez commis un péché ou des péchés. Ça peut arriver. D'ailleurs, quand on fait des fautes, quelquefois on ne dort pas tranquille. Hein. On est véritablement tourmenté, ça nous revient. Et ce tourment, c'est Dieu. Ta main s'appesantissait sur moi. Ça, c'est ce qu'on appelle la conscience. Le petit gendarme, vous savez, qui siffle quand il y a des infractions. Peut-être que vous avez la connaissance assez fréquente des gendarmes. Je ne sais pas, hein. J'espère pas en tous les cas pour vous. Alors, il va véritablement écrire ceci, cette confession, après son pardon, et il est rassuré. Heureux l'homme. Transgression pardonnée. Et il l'exprime en ces mots. Tu as effacé la peine de mon péché. Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable, il y a toujours un moment. Et si de grandes eaux débordent, elles n'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi et tu me garantis de la détresse et tu m'entoures de chants d'allégresse. De passer des plaintes, de passer des gémissements qui nous empêchent de dormir et qui pourrissent notre vie, alors à ce moment-là, à des chants d'allégresse. Ouais, des chants d'allégresse. Ne nous illusions pas, nous ne sommes pas des saints. Et nous sommes des pécheurs. Et nous pouvons toujours pécher à un moment ou à un autre. Et puis quelquefois, même sans pécher, nous pouvons connaître des états de dépression. En disant, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je ne devrais pas être malade. Je ne devrais pas être atteint de telle ou telle maladie. Et ça nous tourmente. Qu'est-ce que j'ai fait de bien? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Et pourquoi Dieu me rejette-t-il? Parce que c'est souvent dans les déserts que quelque part, nous nous sentons si seuls et que nous avons besoin de Dieu et que Dieu ne répond pas. C'était le cas, naturellement. Et il va vivre ce que j'appellerais un silence dévastateur. Il va y avoir cette souffrance de mémoire et il va s'endolorir l'âme, en quelque sorte, par des gémissements sans fin. Il sent une brûlure, il dira « Mais le feu, ton feu, me dessèche comme la chaleur de l'été, en quelque sorte. » Les brûlures d'une âme, est, comment pourrait-on dire, épuisée. Parce que nous nous épuisons, finalement. Et il y en a un qui nous épuise aussi. C'est pas Dieu qui nous épuise. C'est l'adversaire. T'es pas ceci, t'es pas cela. Et tu penses à ça, et tu penses à ceci. Tu te nourris de choses qui t'empoisonnent, tu manges du poison. Eh bien, l'empoisonneur, c'est le diable. Ce sont les esprits. Et vous savez pourquoi? Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Parce que nous aimons sa parole. Parce que nous aimons les frères et les sœurs. Parce que c'est un péché de ne pas aimer les frères et les sœurs. C'en est un. Parce que tu aimes la critique. Tu es toujours au-dessus de tout le monde, alors que finalement tu es comme tout le monde. Et puis toutes sortes de choses. Hein. Tu critiques, tu ceci et cela, etc. C'est pêle-mêle, naturellement. Alors on se culpabilise. Mais le Seigneur veut nous délivrer de tous les maux. Que ce soit les maux à caractère moraux, ou que ce soit les mauvaises habitudes, que ce soit finalement, quelquefois, nous avons de l'amertume et de l'aigreur contre certains. À tort. Parce que c'est que nous ne nous connaissons pas suffisamment. Parce que vous savez, quand on rentre en dialogue avec quelqu'un, on apprend à le connaître, et là peut-être d'un adversaire que nous voyons, nous allons en faire un ami. Tout ça, c'est pêle-mêle. Il dira « ma vigueur » était comme celle de l'été. Et il avait un insoutenable poids de culpabilité. À tort ou à raison, je le dis. Ne vous laissez pas accuser par l'adversaire. Et si vous avez péché, petitement ou gravement, vous avez une solution, c'est demander pardon à Dieu. Nous y reviendrons tout à l'heure. On fera la différence entre les regrets et les remords, et les remords, et également la véritable repentance. Qu'est-ce que c'est que tout ça ? Ma vigueur était comme celle de l'été, j'étais desséché. Et il était frappé d'une sorte d'amnésie. Mis à part l'obsession de son péché, il n'en sortait pas. Il ne régnait plus, en quelque sorte. Même les gens de son palais, ses officiers et tous ses serviteurs, savaient bien ce qui s'était passé. Son aventure avec Bathsheba, son silence qu'il gardait, vous savez, parce que il ne voulait pas qu'on lui en parle. Puis il était le roi, hein. Il y a toujours un petit orgueil chez les rois et les présidents, de toute façon. Et puis, il avait fait tuer quand même Uri, que tout le monde connaissait, comme un vaillant soldat et un homme intègre. Alors, il était frappé par tout le reste de ce qui avait été bien dans sa vie, mais il y avait ça on pourrait dire une amnésie traumatique. Un dégoût de soi-même, et il avait des insomnies, je relis. Tant que je me suis tue, mes os se consumaient. Il n'avait plus de vigueur. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, sans sommeil et sans un jour sans soleil, nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Mais c'était un but que Dieu prenait, ce que l'on peut appeler la discipline divine. Dieu ne nous punit pas, il ne nous juge pas, il ne nous condamne pas, il veut que nous nous repentions et que nous prenions conscience que nous avons mal fait, tout simplement. Il faut remonter à la surface de l'océan, de notre océan ténébreux. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Jusqu'au moment où il va dire « Eh bien, je t'ai confessé mon péché. » C'est là où tout change. C'est là où tout change. Alors, il va faire ce que l'on peut dire des aveux. Mais pas un confessionnal quelconque dans une synagogue. Enfin, ça n'existe pas. Ça. Mais, ou dans une cathédrale, dans une église quelconque. Il va faire des aveux véridiques et il va trouver la solution. Et la solution, elle ne se trouve pas chez les autres. Elle ne se trouve pas je ne sais où, mais la solution, elle se trouve à l'intérieur de notre vie. Et ça s'appelle l'intégrité de cœur. Oui, Seigneur, il le dira dans cette prière de repentance, David. Il dira ceci, « Ô mon Dieu, purifie mon cœur. Lave-moi, Seigneur, et que je sois plus blanc que la neige. » C'était lié à son péché dont nous avons parlé tout à l'heure. L'intégrité de cœur. Si nous ne sommes pas intègres avec nous-mêmes, avec les autres et surtout avec Dieu, on ne s'en sortira jamais. Purifie mon cœur, Seigneur. Ça s'appelle de la franchise en langage populaire. Vérité des faits reconnus où nous apportons pas des excuses. Seigneur, j'ai fait ceci. J'ai commis adultère avec Bathsheba. J'ai caché ma faute, mais tu sais, j'avais certainement des raisons de le faire. Surtout qu'en plus, il avait 8 à 9 femmes. Alors, je pense que Bathsheba, qui est devenue véritablement sa femme officielle après, il n'avait quand même pas besoin d'avoir un harem, comme un certain Salomon, son fils. Alors, je vais vous faire frémir, mais il en avait 800. Alors, il était bien occupé jour et nuit. Il comprend que lui, il était certainement tourmenté, mais par autre chose. Alors, au moment où il va ouvrir la bouche, qu'il va se déterminer à dire maintenant, je vais confesser à Dieu, je ne confesse pas aux hommes, à moins que j'ai porté atteinte aux hommes. Il a dû certainement plus d'une fois en parler avec Bathsheba en disant, mais t'es tellement belle Bathsheba, je n'ai pas pu résister. Ça, ce sont des excuses. Mais ils ont dû certainement en parler. Et il a dû certainement présenter ses excuses à Bathsheba en disant « Je t'ai séduit ». Puis, comment voulez-vous résister à un roi qui vous fait la cour? Ça ne peut pas nous arriver tous les jours, nous. Naturellement. Enfin bon, c'est le soulagement de la peine qu'il va savoir, puisqu'il confesse, elle va être effacée à l'instant. Et Dieu pardonne les péchés immédiatement à partir du moment. Nous sommes intègres de cœur et que nous lui disons ce que nous avons fait. Sans chercher des raisons d'une manière ou d'une autre. Vous savez, on pourrait peut-être dire que dans le cheminement de David, il y a comme une sorte de mode d'emploi. Mais ce n'est pas automatique, la prière au bon moment. Cette assurance de la délivrance, et il va proclamer haut et fort à plusieurs reprises dans ce psaume, « Heureux, paix et bonheur », parce qu'il en parle. Et tout cela, eh bien, ça s'appelle, ce qui nous rapproche de l'Évangile, la grâce, la foi dans la grâce de Dieu. Croyez que même si vous avez péché, que vous avez passé des moments en conséquence difficiles, le Seigneur est encore capable, en un instant, de vous pardonner vos péchés. Je vais vous dire pourquoi. Parce que votre péché ne va pas être pardonné sur l'instant, il est déjà pardonné depuis des siècles et des siècles. Si vous croyez que Jésus-Christ est monté à la croix, qu'il a fait l'expiation de vos péchés, et il a dit, et il termine, avant de rendre le dernier soupir, tout est accompli. Alors n'allez pas chercher à fabriquer quelque chose, n'allez pas demander à Dieu, est-ce que tu as une petite idée, comment je pourrais m'en sortir, etc. Le Seigneur a tout résolu depuis 2000 ans pour nous. C'est fait. Croyez que la grâce, et croyez à cette grâce, vous la saisissez par la foi. Alors après, vous pourrez exploser de joie et vous pourrez revenir et retrouver l'aisance et l'allégresse que vous avez perdue, la joie que vous avez perdue. Alors, la miséricorde de Dieu est en marche pour ne pas périr de honte et dans une culpabilité mortelle. Parce qu'il y a des gens qui traînent leur faute toute leur vie. Et moi, je vois que dans certains cas, ce sont des innocents qui sont victimes. Et c'est souvent les innocents qui se culpabilisent alors que les coupables passent pour des victimes. Vous savez, dans ce qui, les débats que nous avons aujourd'hui avec tous ces problèmes de sensualité, tous ces problèmes d'homo, pédo et tout ce que vous voudrez, on vit dans un drôle de monde aujourd'hui. Et c'est souvent ceux qui sont victimes, qui pleurent et qui vont garder ça toute leur vie, pendant des années, alors que quelque part même le coupable va garder le silence, ne reconnaît pas, et c'est lui qui va dire « mais moi, c'est moi qui suis victime ». Le monde à l'envers, version du diable, version des démons, version du monde occulte. Alors, je parle de miséricorde de Dieu pour ne pas périr de honte et dans une culpabilité mortelle. Moi, j'ai eu l'occasion dans mon ministère pastoral de rencontrer des hommes, des femmes, surtout des femmes, qui, quelque part, sont venus nous faire l'aveu. Ils ne l'avaient jamais fait ni à leur famille, ni à un prêtre, et qui sont venus à la suite d'un message que nous donnons en prédication. Et elle me dit, voilà, monsieur, moi, ça fait depuis l'âge de 20 ans, ou peut-être même avant, j'ai vécu, j'ai subi ceci et cela, et j'ai jamais pu m'en défaire. Et elle me disait ça, elle avait peut-être 60, 70 ans. Quelle vie gâchée. Elle était victime. Et elle a dû en passer des nuits d'insomnie, en se culpabilisant elle-même. Parce que David, dans cette affaire que nous parlons, il s'est empoisonné. Vous savez ce que c'est qu'un poison? Enfin, je ne pense pas, mais toujours est-il. Il s'est empoisonné dans un passif fautif pour son triple péché qu'il n'a pas voulu avouer et qu'il a gardé pendant à peu près plus d'un an, plusieurs mois naturellement. Et son fardeau, à un moment donné, puisque la main de Dieu s'appesantissait, non pas pour qu'il soit puni, mais pour qu'il puisse être véritablement en capacité de dire « voilà ce que j'ai fait, je me reprends ». Je te demande pardon, eh bien, à ce moment-là, qu'il puisse être libéré, parce que ça devenait insupportable. C'était une torture, et tant qu'il a résisté à l'appel de la repentance, j'ai bien souligné, une année d'obstination, eh bien, il va brûler de honte. Il va, lui, le roi, quand il croisera ses sujets dans son palais, il baissera les yeux. Un roi qui baisse les yeux, vous vous rendez compte ? Et quand le prophète Nathan est venu le voir et lui a donné une petite parabole qui était le pauvre et la brebis. Vous pourrez le relire, c'est formidable, j'ai prêché là-dessus, sur ce message. Et vous verrez qu'à un moment donné, eh bien David lui baissait les yeux, et à un moment donné, quand le prophète lui a dit « tu es cet homme-là », parce qu'il y avait toute une histoire de sacrifice de cette brebis pour un pauvre qui n'avait qu'elle. C'était une belle illustration. Et David, à ce moment-là, il nous est dit dans un autre texte, David sentit battre son cœur, parce qu'il avait mal fait. Déjà tout enfant, lorsque nous faisons une petite bêtise, une petite sottise, on sent le cœur, pourvu que papa, maman, hein, ou pourvu que eh ben, là, le maître ne sache pas, parce que, et là, nous sentons notre cœur battre. Ouais. Et il a eu un sentiment aigu de remords. Et c'est là justement où on va en arriver à la différence qu'il y a entre le remords et la repentance. C'est important. Nuit sans sommeil dans les tourments et jour sans soleil. Parce que quand on est épuisé, quand on est tourmenté, quand on est empoisonné, quand on est intoxiqué, alors je peux vous dire que les jours... sont pas bons. Hein. D'abord parce qu'on n'a pas dormi. Aux nuits agitées succèdent des matins radieux. Reprenez de l'espérance, mes frères et sœurs. Moi, je vous le dis. Ouais. Parce que dans la Bible, c'est ça, c'est pas l'inverse. La Bible ne dit pas comme les religions issues de Babel, où on parle toutes sortes de langues, de division et de séparation, doctrinalement parlant. Eh bien, moi, je dis que la Bible nous dit qu'après les épreuves, il vient véritablement des temps ensoleillés, des temps paisibles, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Le soir arrive, nous dit un texte dans la Bible, le soir arrive les pleurs. Vous connaissez ce texte. Et le matin, la jubilation. Alors que quelque part, quand on a fait une mauvaise nuit, je ne veux pas savoir comment vous vous réveillez, mais quelquefois, quand on a été tourmenté toute la nuit, je peux vous dire qu'on a une triste mine. Ah oui, et puis en plus, il faut les travailler. Et le problème n'est pas solutionné. Et ça devient cauchemar, cauchemardesque. On peut dire ça comme ça. Espérance de l'aurore, parce qu'il y a toujours une solution avec Dieu et un soleil radieux qui est la promesse d'un renouveau. Et heureusement pour David qu'il a fait les aveux. Heureusement qu'il est allé se mettre devant Dieu, qu'il a pleuré. Son cœur, eh bien, a été véritablement, eh bien, là, touché. Il sentit son cœur battre à cause de sa faute. Et nous pouvons dire que c'était la promesse d'une autre vie. Et après l'histoire, cette grave histoire de David, il a eu une autre vie, David, mais plus comme avant. Il servait Dieu d'une autre manière. Ouais. Et il a pu écrire ces dizaines de psaumes par l'expérience qu'il en avait fait. Entre autres celui-ci, le psaume 51, lisez-le cette semaine, le psaume 51, vous verrez. Alors j'aborde quelque chose maintenant, avant de terminer. Qu'est-ce que la véritable repentance? Moi, ça m'a posé des questions pendant des années. Oui, je me disais, mais comment faire la différence? Alors, la véritable repentance, nous allons la lire, nous allons trouver le texte, tout simplement, dans le livre de 2 Corinthiens. Et c'est pas mal, vous allez voir. Parce que ça illustre un petit peu ce que nous avons lu là, il y a un instant. Ce que nous avons dit, surtout. La véritable repentance, c'est ceci. 2 Corinthiens, chapitre 7, versets 9 à 10. Paul arrive à Corinthe et il trouve des péchés dans l'église. Mais alors, dites donc, pas triste. Hein. C'est les temps d'aujourd'hui qui étaient déjà en cours hier. Hein. Les Corinthiens, ils n'étaient pas forcément... ils parlaient du Seigneur, ils avaient les dons spirituels, ils avaient toutes sortes de capacités. Mais alors, leur vie morale... C'est Paul qui en parle. Il dit, « Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristés par mes paroles, parce qu'il les a secoués un petit peu, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance, car vous avez été attristés selon Dieu. » Il y a une tristesse selon Dieu, qui est juste, qui est parfaite, qui est bonne, qui est salvatrice, et il y a une tristesse selon l'homme que nous sommes, ou la femme que nous sommes, et selon aussi les principes, les traditions, les us et coutumes du monde qui nous environne, mais attristés selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. Parce que quand Dieu utilise sa discipline divine, eh bien je peux vous dire que ça ne peut que nous faire du bien et nous guérir. Guérir du mal, guérir de nos folies. Alors, le verset 10, c'est important. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut. C'est pas à la perdition. On est bien d'accord, hein, les mots sont là. Hein. Une repentance à salut. À salut, pour nous donner une vie nouvelle. On l'a déjà, la vie nouvelle, quand on est converti à Jésus-Christ. Mais ça n'empêche pas que nous pouvons trébucher. Dont on ne se repent jamais. Au lieu de dire, Seigneur, eh bien moi je t'en veux parce que tu as fait ceci et cela, tu m'as puni, tu as fait des choses qui ne me plaisent pas. Non. Nous voyons que nous repentons jamais de cette tristesse de Dieu, parce qu'on bénit le Seigneur en disant « Merci Seigneur ». Non pas pour l'amertume et l'aigreur de la discipline, mais on se dit, parce qu'on voit à ce moment-là, que finalement Dieu a eu raison de nous reprendre, parce que ça nous a sorti d'une ornière dans laquelle nous pouvons véritablement nous y perdre. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. Vous vous rendez compte? Il y a une tristesse qui produit le salut et une tristesse qui produit la mort. Et voici cette même tristesse selon Dieu, quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous? Quelle justification, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle et quelle punition vous avez accepté de la part de Dieu pour ne pas mourir, mais vivre à nouveau. Revivre, renaître à nouveau, être une nouvelle précision d'une nouvelle création. Alors, ce n'est pas seulement d'être désolé ou regretter nos trahisons, notre cynisme, notre un petit peu fanfaronnisme, on peut dire peut-être ça de cette manière, c'est plus que cela. Le texte nous parle que c'est une prise de conscience, ensuite c'est une réparation qui jaillit de notre cœur lorsque nous avons fait du mal à quelqu'un. C'est une conversion, autrement dit un changement radical. Seigneur, donne-moi la force que je n'ai pas. J'ai été malade de mon péché et maintenant j'ai besoin d'une convalescence. Ça ne va pas se faire comme un claquement de doigts. Il va falloir réapprendre les choses. Il va falloir réapprendre à marcher. Il va falloir que notre mentalité, eh bien, petit à petit, retrouve finalement l'intégrité, retrouve la vérité, afin qu'une reconstruction soit possible. Et je voudrais, mes frères et sœurs, je voudrais vous le dire, que la superficialité, après de telles aventures, eh bien, n'est pas de mise. C'est pas grave. Oh, il va bien s'en remettre. Je lui ai donné un coup de poing dans la figure. Bon, il a un œil au beurre noir, il a plus d'oreille, mais bon, c'est pas grave. Ça repousse tout ça. Avec les, comment on appelle ça, quand on fait des, vous savez, les opérations, là. Hein, peu importe, je me souviens pas, moi. Superficialité bannie. Alors, il y a un sens à tous les mots. Être désolé, qu'est-ce que ça veut dire? C'est en français. C'est être confus. Ouais. Je suis désolé. Alors, tu sais, je suis confus. Je suis contrarié de t'avoir fait, de t'avoir dit et de m'être comporté de cette manière. Mais c'est une contrariété. Ben, si celui qui doit être contrarié, c'est l'autre. Hein. Je suis ennuyé, tu vois. J'ai perdu un petit peu mes nerfs. Hein. Hein, je t'ai dit des choses que je n'aurais pas dû. Alors, je suis ennuyé, je suis navré, je suis peiné, je suis chagrité, je dirais même, je suis embêté. Mais ça, c'est pas la repentance. C'est pas la repentance. C'est la repentance selon la, le monde. Parce que on dit combien de fois pardon et aussi je suis désolé. On le dit souvent, hein. Mais ce n'est pas la vraie repentance que Dieu attend. La vraie repentance, c'est autre chose. J'ai une version un peu différente. David dira ceci. Je t'ai avoué ma faute. Je t'ai caché mes torts. Il est bien question que, véritablement, il ait identifié le fautif, là. Mes torts à moi. Il m'a provoqué, l'autre. Ben non, c'était tort quand même. Est-ce que tu pouvais faire autrement? Je me suis dit, je suis rebelle au Seigneur. J'ai été rebelle à sa parole. J'ai été rebelle à ce que je savais qui devait être bien et j'ai fait le mal. Je dois le reconnaître devant mon Dieu. Tu m'as déchargé de ma faute et on reprend naturellement le psaume 32 dans sa lecture. Parce que je ne vais pas vous le relire. Alors, la différence entre regret, remords et repentance, les trois R. Les trois R, oui, remords, regret, repentance. Le regret, le remords, est une pensée superficielle ou une façon de tourner rapidement la page. Allez, hop, on évacue, c'est terminé. Mais par contre, celui qui a été blessé, il a été blessé. Et il est encore blessé. Et sa blessure ne peut guérir que si tu vas le voir et que tu lui demandes pardon. Autrement, tu vas rester enfermé. Il y en a un, la victime, qui va véritablement, là, il va, ça l'empêche de dormir, et ça pourrit ses jours. Mais par contre, celui qui est coupable dans cette affaire, il veut évacuer les choses en disant « c'est pas grave, pas grand-chose. Alors il sera empoisonné parce que lui ne va pas sortir non plus de ce tourment qui va bouillonner à l'intérieur de lui-même. L'expression utilisée, c'est « je suis souvent désolé ». Ah oui, je le regrette. C'est déjà pas mal d'être désolé après avoir fait du mal. Parce qu'il y a des gens qui sont pas du tout désolés d'avoir fait du mal et qui pensent que finalement, eh bien, ils ont pris leur vengeance, ils ont pris leur revanche et c'est mérité pour que l'autre... ce que je lui ai fait, c'est mérité. Alors attention, hein, parce que si on se met sur cette ligne-là, mérité, attendez, on n'est pas sauvé par le mérite. Hein. On est sauvé par la grâce et par la foi. Alors, je suis désolé, et la vraie repentance implique, et nous l'avons déjà dit, mais je le relis, une reconnaissance d'une erreur, d'une parole, d'un comportement chronique ou accidentel. C'est une faute, reconnaissance d'une faute. C'est une confession, voire l'engagement d'une réparation, je l'ai dit, mais je le répète, une conversion, et qui comporte finalement un comportement qui va changer radicalement à nouveau notre vie. Et vous savez que Jésus l'a fait de ses ennemis, parce que là il avait des ennemis, et bien il en a fait des amis, et il les a appelés l'Église, mon Église, dans l'amour. C'est comme tenter de guérir un cancer avec de l'aspirine. Ça va ? Si vous êtes consommateur d'aspirine, faites des provisions parce qu'il n'y en a plus beaucoup en ce moment. Oui, guérir un cancer avec de l'aspirine. Le véritable repentir est toujours douloureux. Ah oui, ça nous coûte. Hein. Eh oui, parce qu'on n'est pas obligé d'avoir des comportements qui sont blessants pour les autres. Parce que nous avons fait tort. Et d'abord à quelqu'un, et avant tout, nous avons fait tort à Dieu lui-même. Nous avons péché contre sa parole. Alors, je le répète, on n'est pas parfait. On va faire des bêtises. On en a fait. Et malheureusement, je pense qu'on en fera encore. Mais il y a une attitude chez David qui nous est donnée. Il y a une porte de sortie. Il y a une porte d'espérance. C'est pourquoi, ce matin, moi, mon propos n'est pas de juger, n'est pas de condamner, mais c'est de vous remettre devant la parole et de nous remettre les uns et les autres devant les principes vitaux, essentiels de Dieu. Trop de gens sont malheureux dans nos églises parce que ça tourne en rond, ça, on ne s'en sort pas. Et s'il y a quelqu'un, naturellement, qui peut le savoir, ce sont les pasteurs. Hein. Ça, c'est sûr. Parce que nous avons des confessions. Nous avons des gens. Nous prions avec des gens. Etc. Et en disant, ben voilà, il n'y a pas d'issue pour l'instant. Nos confessions du genre « je suis désolé » ne tiennent pas devant Dieu. Et je veux vous dire, ça ajoute du sel à la blessure. Mettez du sel sur une blessure. Mettez du vinaigre sur une blessure. Déjà, quand on nous met un peu d'oxygéné, ça pique. Alors vous mettez de l'alcool à 90, alors là, vous prenez feu. Le sel sur la blessure, c'est important de ne pas faire ça parce que nous agitons du mal au mal. La conclusion, c'est celle-ci. C'est une parole pour vous aujourd'hui, mes frères. Si nous confessons nos péchés, nous les reconnaissons comme David l'a fait, il nous est dit que Dieu est fidèle et juste. Nous ne le sommes pas, mais lui, il est fidèle et juste. Pour nous les pardonner sans appel et nous purifier de toute iniquité. Alors, on pourrait peut-être conclure avec cette parole qui serait celle-ci, un réveil ou un éveil d'un nouveau jour ensoleillé où il s'agit du bonheur du pardon. On peut dormir plus tranquille. On peut faire fuir les insomnies. On peut véritablement connaître la liberté et la libération de l'Esprit de Dieu à l'intérieur de nous-mêmes, puisque nous sommes pour la plupart baptisés du Saint-Esprit. Et même ceux qui ne seraient pas baptisés du Saint-Esprit, ils verraient aussi la même chose. Hein. Parce que, quelle que soit l'expression du Saint-Esprit, Hein, moi, je pense que Dieu parle aussi à ceux qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit. Plutôt, ils sont baptisés du Saint-Esprit, ils sont sous l'effusion du Saint-Esprit, mais ils ne parlent pas en langue. Mais ce n'est pas le parler en langue qui donne la justification. C'est un signe de la présence, finalement, et puis peut-être certainement pour un service. Mais peu importe. De toute façon, tout ça, c'est au-delà. Et j'ai trouvé ce matin, avant que... Parce que quand même, je relis mon texte pour savoir ce qu'il en est. Cette parole merveilleuse de Jésus, je crois que c'est dans l'évangile de Marc, chapitre 11. « Venez à moi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, qui êtes tourmentés la nuit, qui êtes tourmentés le jour, en raison de votre vie. Ne vous laissez pas accuser par le diable, entre guillemets. Mais venez, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai. » Ça sert à quoi la nuit ? Ça sert au repos. Je vous donnerai du repos à la fois pour votre corps, mais je vous donne du repos pour vos âmes. Et je vous donnerai du repos pour vos âmes, dans un sommeil apaisé. Car, nous dit le psaume 4, verset 8, et ça il est beau ce passage, « Je me couche et je m'endors en paix, et tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Que Dieu vous fasse du bien ce matin. Que Dieu vous visite du Saint-Esprit. Vaut mieux vivre heureux que malheureux. On est d'accord. Alors, moi je pense que dans tout cela, le Seigneur a la réponse à travers ses paroles. Et que Dieu nous bénisse richement parce qu'il veut voir un peuple heureux. Il veut voir un peuple uni. Il veut voir un peuple béni. Nous allons prier quelques instants. Merci Seigneur. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te bénir pour ta bonté, ta fidélité qui est éternelle. Merci Seigneur parce que tu connais les souffrances de ton peuple. Tu avais déjà vu en effet en Égypte la servitude, l'esclavage. Et tu as fait cette promesse, « Je me lèverai pour délivrer mon peuple d'Égypte ». Alors l'Égypte, elle est loin de nous maintenant. Mais une chose qui est certaine, c'est que nous avons aussi nos Égyptes et ses ténèbres. Alors, merci Seigneur, visite mes frères et mes sœurs. Nous prions de tout notre cœur pour, en effet, des situations comme celle de David qui va retrouver le sommeil. Je m'endors paisiblement dans ma demeure. Tu me donnes la sécurité. Oui Seigneur, c'est quelque chose de traîner dans les couloirs de l'insomnie, en raison, pour des raisons morales, pour des raisons, en effet, de culpabilité, de fausse culpabilité, ou de vraie culpabilité, peu importe. Mais une chose qui est certaine, c'est que nous voulons sortir de ces couloirs, de ces tunnels, qui, quelque part, empoisonnent la vie de tes enfants, et qui, en effet, Seigneur, gâchent leur existence dans toutes sortes de débats avec eux-mêmes, dans toutes sortes de contestations avec les autres, dans toutes sortes de négation ou de déni avec le Dieu qui voit tout, qui connaît tout et qui peut tout. Merci Seigneur pour ta bonté et ta fidélité. Moi je te demande les uns et les autres, nous qui sommes là, eh bien bénis ton peuple et fais-lui le plus grand bien à travers ta parole. Amen.